anniversaire de présence des fraternités monastiques à Montréal. Votre joie à vous. La deuxième question, ce sera, quelle est pour vous la joie de l'Église d'accueillir, d'avoir accueilli les fraternités à Montréal? Et la troisième question, ce sera, pour vous, la vie consacrée, puisque nous entrons dans l'année de la vie consacrée, quelle importance et quel signe elle porte pour notre temps? Voilà les trois questions. Les deux dimensions. La première, votre témoignage. Et la deuxième, votre réflexion. Alors, si vous le voulez, nous commençons par la première question. Votre joie à vous.
Mais il faut que vous me permettiez d'abord de saluer Monseigneur Rivet. Il ne sait pas, mais il est à l'origine de ma connaissance de Jérusalem. Alors, ce que je voudrais dire en ce 10e anniversaire, c'est que la première personne qui m'ait parlé de Jérusalem, les fraternités monastiques, c'est Madame Lucie Vanier-Vincent, qui était très, très intéressée à ce que les fraternités viennent à Montréal. Puis, alors, elle avait invité chez elle pour un petit déjeuner le père Pierre-Marie, et puis nous étions nombreux, je me souviens, pour écouter ce que Lucie Vincent, mais surtout Lucie Vanier-Vincent, mais surtout ce que le père Pierre-Marie avait à nous communiquer. Puis, un peu plus tard, voilà que Monseigneur Rivet a demandé de me rencontrer pour me demander de m'occuper des fraternités quand elles arriveraient à Montréal. Ce n'est pas que j'avais un rôle direct, mais il voulait que les communautés de longue tradition à Montréal fassent sentir aux nouvelles venues qu'elles étaient très bienvenues. Puis je peux vous dire que j'ai, de tout cœur, je lui ai promis que je ferais ce que je pouvais. Puis alors, j'espère que j'ai été fidèle. Troisièmement, je viens d'apprendre aujourd'hui même par Sœur Monique Tremblay, qui est ici présente, qu'il y a eu un lien particulier entre l'arrivée des fraternités ici et la chapelle de Bon Secours. Alors, vous savez, la chapelle de Bon Secours, pour une fille de mère bourgeoise, c'est très, très, très précieux. Puis alors, pour moi, c'est comme si mère bourgeoise avait fait un clin d'œil. Alors, à Jérusalem. Alors, voyez ça comme ça, puis ne l'oubliez jamais. Moi, je ne l'oublierai pas. Et puis, après ça, je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de contacts parce qu'on m'a fait confiance. D'abord, Sœur Catherine m'a fait beaucoup confiance. Puis ensuite, je peux dire que j'ai eu l'occasion de donner des enseignements. Puis ensuite, d'animer la retraite annuelle. Une fois. Puis plus tard aussi, de faire la visite, au fond, au nom de l'Église. Alors, la visite de toute la partie des femmes. Mais je connais bien aussi le frère Antoine, Emmanuel, puis tous les frères. Alors, je peux vous dire que c'est avec tout mon cœur que je suis ici, là, aujourd'hui, et puis que je suis contente. Oui, j'ai eu une grande joie, parce que j'ai pensé que c'était un très beau cadeau que vous faisiez à l'Église en venant à Montréal.
Ben alors,
ça, c'est pour la première question.
Et vous venez tout juste d'introduire le deuxième thème, c'est-à-dire la joie de l'Église. Et puis là, c'est encore un temps pour vous de témoignage, mais aussi de réflexion au plan de notre Église.
Oui. Vous savez, justement, Monseigneur Rivet, je ne sais pas s'il va reconnaître les paroles qu'il m'a dites, puis surtout, j'espère que je suis fidèle, mais il m'avait dit, comme pour me montrer l'importance de votre venue, ici, il m'avait dit, vous savez, il y a 12 personnes, indépendamment l'une de l'autre, qui sont allés trouver les autorités du diocèse, c'est-à-dire à ce moment-là, Monseigneur Turcotte. Est-ce qu'il était cardinal? Non, pas encore, hein? Et puis, en tout cas, simplement, qui demandait la venue de la communauté de Jérusalem à Montréal, parce qu'on pensait que ça serait un élément du renouveau de l'Église que nous souhaitions, ou nous étions nombreux et nombreuses à espérer. Alors, moi, je veux rendre hommage à ces 12 personnes-là. Je pense qu'il y a Mireille Étier dans ça. Et puis elle est ici, puis il y en a d'autres que je ne connais pas, mais je voudrais rendre hommage à toutes les personnes. Et puis, je puis vous dire que, vous savez, le fait que, en même temps, les Pères du Saint-Sacrement ont remis l'Église et le monastère au diocèse, c'était difficile de ne pas croire qu'il y avait un signe de Dieu. Il me semble que je ne cours pas après les signes extraordinaires. Ma vie de foi est très, très humble et simple. Mais je dois vous dire que j'ai été bien impressionnée par le fait que ça arrivait en même temps. De sorte que pour moi, je pense que derrière la venue de Jérusalem à Montréal, il y a quelque chose qui vient de plus haut que nous. Maintenant, je pense que ça répond en partie à la question que c'était le désir de l'Église. Je pense qu'on est tous tellement conscients qu'il faut qu'il y ait des personnes qui remplissent la mission, puis je suis sûre que cette mission-là est donnée, de garder la question de Dieu présente dans notre monde. J'espère qu'on est bien du monde à faire ça. Puis tout le monde qui est ici, là, en cette réunion, je pense qu'on est tous de ces gens-là. Mais moi, quand j'ai appris que Jérusalem venait, je pense que ça me disait que pour l'Église de Montréal, et plus large que l'Église de Montréal, c'était un instrument particulièrement important pour garder la question de Dieu présente dans un monde si radicalement sécularisé que celui qui est le nôtre. Vous savez, quand est venu le synode sur la nouvelle évangélisation en 2012, qu'est-ce qui a été considéré comme un de plusieurs traits caractéristiques de l'Église universelle à ce moment-ci? Puis le premier trait qui a été noté dans l'instrument de travail, ça a été la sécularisation radicale de la société. Alors, moi, toute initiative qui permet de faire face, puis encore une fois, de garder la question de Dieu présente dans notre monde, je salue ça avec grand enthousiasme puis grande reconnaissance. Puis de cette façon-là, je suis sûre que c'est pas juste moi personnellement, là. Il me semble que c'est l'Église. Mm-hmm. Puis vous savez, il y a la communauté, le noyau dur, on pourrait dire, là, les hommes et les femmes qui vivent ici. Puis il y a tout le rayonnement. Je n'en reviens pas que dans si peu d'années, qu'il y ait déjà un si grand rayonnement de la communauté de Jérusalem. Puis j'ai aussi eu le privilège, parce que c'est toujours un privilège, de prêcher retraite aux fraternités évangéliques qui sont rattachées aux communautés monastiques, aux fraternités monastiques. Et puis, il me semble que je pourrais témoigner devant l'univers entier qu'il y a là quelque chose de très, très beau. Puis je sais que ce n'est pas tout. Il y a les fraternités familles. Il y a un rayonnement ça m'enthousiasme.
Selon vous, quel est le signe particulier, spécifique, des fraternités monastiques dans l'Église de Montréal? Quel signe elles donnent? quelle image, parce qu'au fond, chaque communauté ou chaque paroisse ou chaque personne offre une image, une présence particulière. En quoi cette présence-là était devenue nécessaire, je pourrais dire ça comme ça, à Montréal?
Mais pensons simplement à la liturgie que nous venons de vivre, là, la demi-heure qui a précédé. Bien, pour moi, d'avoir à l'intérieur de notre église diocésaine un lieu où non seulement la liturgie est très belle, mais aussi elle ramasse la tradition de l'Église, la tradition séculaire de l'Église. Ça, ça ne court pas les rues, il me semble. Puis alors ça, je trouve ça très, très précieux parce que j'écoutais aujourd'hui même, puis on disait, vous savez, si on ne cultive pas des racines, puis si on ne cultive pas des racines profondes, c'est comme si on n'avait que des fleurs coupées dans un pot. Dans le sens que ça va durer, ça va être très beau pour 2-3 jours, mais ça ne durera pas longtemps. Mais si on a des plantes, des fleurs qui sont bien enracinées, ça dure plus longtemps. Alors, je trouve que puis le fait, non seulement en assistant, puis en voyant, par exemple, les lectures des Pères de l'Église, et puis un respect pour l'ensemble de la tradition de l'Église, ça, c'est un bien extrêmement précieux aujourd'hui. Puis alors, ça, je suis très, très reconnaissante pour ça. Autre chose, il y a c'est vraiment un renouveau de la vie monastique. Alors, voyez-vous, simplement, là, si je prends quelques traits, c'est pas la vie monastique dans des grands domaines loin des villes. C'est la vie monastique au cœur des grandes villes. Ça, c'est très frappant pour moi. La vie monastique prise très au sérieux pour la dimension prière, méditation, contemplation, mais en même temps, la dimension de travail à l'extérieur, de contact, donc très quotidien, on pourrait dire, avec toutes sortes de personnes. Puis quand je faisais la visite ici, puis que je passais près des fenêtres, puis que je voyais le métro tout à côté, ici, puis que je voyais les gens rentrer et sortir du métro, ça me semblait qu'à soi tout seul, c'était un très beau signe. Puis vous savez, le fait de ne pas être propriétaire, choisir de ne pas être propriétaire, mais d'être locataire, et vous savez, c'est comme des traits qui distinguent cette forme monastique au 21e siècle ici, ça n'enlève pas la pertinence des formes antérieures. Ça ne dit pas que des endroits comme Saint-Benoît-du-Lac n'ont pas d'avenir. Ce n'est pas ça que ça dit. Mais ça dit que pour un temps comme le nôtre, il faut certainement des nouvelles formes. Pas nécessairement qui remplacent, mais qui enrichissent, je ne sais pas, il me semble que l'Église est tellement belle, est tellement plus belle d'accueillir des nouvelles formes. Maintenant, il faut que vous sachiez que moi, j'ai un grand souci pour les communautés nouvelles. Puis je m'en occupe depuis bien des années. Et puis, je sais que ça veut dire naître, ce n'est pas comme avoir des centaines d'années. Voyez-vous, là, aujourd'hui, on vient de chanter le Te Deum pour un 10e anniversaire. Moi, là, il y a 2 jours, j'étais à Québec et j'ai chanté un Te Deum aussi, mais là, c'était pour le 375e anniversaire de l'arrivée des Ursulines avec Marie de l'Incarnation puis des Augustines pour l'hôtel, pour l'Hôpital général de Québec. Alors, mais un jour, les Ursulines puis les hospitalières ont fêté leur 10e. Ça fait un petit bout de temps. Je ne pense pas que c'est les mêmes. Mais pour moi, il y a quelque chose qui me parle de la grandeur de l'Église dans tout ça. Puis, je suis pas moins passionnée pour ce que j'ai vécu aujourd'hui que pour ce que j'ai vécu il y a 2 jours.
Et ça nous amène à cette 3e dimension qui vous tient à cœur, je pense, particulièrement. Vous avez commencé à évoquer un peu cette rencontre entre les communautés de longue tradition et les nouvelles communautés. Derrière tout ça, il y a des personnes qui se consacrent. Il y a des personnes qui consacrent leur vie. On va en parler pendant toute l'année, la vie consacrée. Une question qui vous tient à cœur, qui nous sommes témoins tous les jours. On vit avec des moines et des moniales qui sont consacrés. On vit avec des prêtres, on vit avec... Bon. Mais ici, au sanctuaire, il y a cette proximité avec des gens qui, autrement, lorsque vous évoquez les monastères qui sont en campagne et tout ça, où on a un contact plus épisodique, je dirais, avec ces personnes. Aujourd'hui, on a un contact quotidien. Et pour vous, au fond, quel est le sens et l'importance aujourd'hui de la vie consacrée? Ça doit avoir un peu changé depuis que vous êtes consacré, ou bien s'il y a encore quelque chose qui est commun?
En tout cas, je peux vous dire une chose. C'est que je suis plus convaincue que jamais de l'importance de la vie consacrée dans l'Église. Maintenant, la consécration fondamentale, c'est celle du baptême. Mais qu'il y ait dans l'Église un certain nombre de personnes qui sont appelées à ça, à vivre cette consécration baptismale sous les vœux, dans une communauté où beaucoup de temps est donné à la prière, puis les invitations à la prière, et puis la formation à la prière, puis la vie communautaire. Savez-vous ce que j'ai le goût de faire, juste pour illustrer ça? J'ai le goût de vous parler. Vous savez, vous avez tout entendu parler de notre sœur Gilberte, qui a été kidnappée au Cameroun. Alors, elle a été 58 jours dans cette situation-là, avec 2 prêtres italiens avec qui elle était habituée de travailler. Ils travaillaient dans le même lieu. Mais 58 jours, il semble que, arrivé au lieu où ils ont été gardés, il y en avait un qui n'était pas très enthousiaste pour l'expérience. Puis Gilberte, elle nous a dit qu'elle avait dit, bon, on n'a rien fait pour être ici. On ne peut rien faire pour s'en sortir. La seule chose qu'on puisse faire, c'est travailler nos attitudes. Elle dit, voulez-vous, on va tout faire pour développer notre confiance puis notre abandon à Dieu. Puis elle dit, c'est comme si on avait rivalisé à partir de ce moment-là. Je trouvais ça tellement beau. Puis à la fin du séjour, quand elle est... Vous savez d'abord que nous autres, on est très impressionnés parce que je pense que dans toute la congrégation de Notre-Dame, quand on a vu arriver le 31 mai, fête de la Visitation, qui est notre fête patronale, je pense qu'on se disait toutes les unes aux autres, il faudrait que ça soit aujourd'hui. Et ça a été aujourd'hui. Alors, mais entre le temps qu'on a annoncé puis le temps qu'on se met en marche, il y avait 4 heures. Alors, j'ai dit, nous avons dit à Gilbert, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 4 heures-là? Bien, elle dit, c'était pas long de faire nos valises. Hein? On avait été prises avec une petite jaquette de nuit à à 40 degrés, là, essayez de vous imaginer la scène. Puis elle était nu-pied. Alors, tu sais, ça se faisait vite, là. Oui. Mais elle dit, on a fait notre évaluation. Bien, ça, il faut quasiment être dans une communauté religieuse pour avoir le réflexe de dire, on va faire notre évaluation. Puis elle nous a dit qu'ils avaient fait leur évaluation sur 3 points. Premier point, matériellement, qu'est-ce que c'est notre expérience? Puis elle a dit, ça a été une expérience de dépouillement total. Si on avait plus de temps, je vous donnerais quelques détails, mais vous savez, genre, une paire de souliers pour 3, parce qu'elle était nu-pied, puis un autre qui avait été nu-pied, puis alors il y avait une paire de souliers. Alors, quand ils voulaient marcher, chacun son tour prenait les souliers. Ensuite, un savon pour 3. 58 jours à la Belle Étoile, avec une natte pour 3. Bon, je pourrais continuer longtemps, là, vous sentez quel genre de choses c'est. Elle a dit, donc, dépouillement total, mais ce qu'on a appris, c'est qu'on pouvait vivre avec très peu. Deuxième dimension, elle dit, on a fait cette évaluation sur notre expérience spirituelle. Elle a dit, la plus grande expérience spirituelle de toute sa vie. C'est quelque chose, ça. Puis, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils se sont donné un horaire quotidien. Bon, ça commençait par la prière, puis c'était elle qui était chargée de la prière du matin. Après ça, il y avait comme une tasse de thé. Et puis, après ça, avec 2 petits biscuits, il me semble qu'elle nous a dit. Puis, après ça, 1h30 de partage de la parole. Partage de la parole, mais sans Bible, sans quoi que ce soit, là, aucun document. Et puis, à 3, comme c'est tous des gens qui ont passé leur vie à parler de la parole de Dieu, ils ont reconstitué l'Évangile de Matthieu. Puis c'est avec l'Évangile de Matthieu qu'ils ont passé leurs 58 jours. Puis après ça, ils prenaient un temps de contemplation. Puis comme il y avait une chaise pour 3, bien, il y en avait une personne qui s'assoyait, puis les autres marchaient, puis prenaient leur tour comme ça. Mais elle dit, elle, quand elle parle de ça, là, elle n'a pas les larmes à l'œil. C'est comme de dire, jamais dans ma vie, j'ai eu la possibilité de n'avoir rien d'autre à penser qu'à la parole de Dieu. Puis on a comme l'impression, nous autres, qu'elle en a bien profité de ce temps-là. Et puis, la troisième dimension de leur évaluation, la vie communautaire. Bien là, j'aimerais ça que vous l'entendiez. J'espère qu'un jour, elle va pouvoir le dire à beaucoup de monde. Mon temps est passé? Ah. Puis alors, je pense que toutes nous autres, ce qui nous a le plus frappé, c'est comment une personne dans une situation comme ça peut vivre d'une manière positive, puis peut, on pourrait dire, il me semble qu'on a vu sous nos yeux la croissance dans la foi, puis dans l'espérance, puis dans l'amour. Et puis, vous savez, je ne crois pas que cette personne-là a commencé sa croissance spirituelle le jour qu'elle a été arrêtée. Je pense que c'est comme si on assiste aux fruits d'une vie. Moi, j'aime bien se regarder des cheminements. Peu importe le point de départ. Tu sais, c'est comme, c'est de dire oui à Dieu, le oui que je peux dire aujourd'hui. Puis, me semble que la vie consacrée à Dieu, en tout cas, me semble, m'a permis d'avoir beaucoup, beaucoup de possibilités, petit à petit, d'apprendre quelque chose. Moi, je n'ai pas appris à prier à la congrégation de Notre-Dame. Il me semble que j'attachais beaucoup d'importance à la prière avant d'entrer. Mais à l'âge que j'ai, regardez mes cheveux, à l'âge que j'ai, je me rends compte que pour le long terme, c'est très important d'avoir un appui. Alors, au moment où je suis entrée, je ne peux pas dire que je sentais le besoin d'avoir une communauté, mais je peux vous dire que maintenant, quand j'y pense, je remercie Dieu tous les jours d'avoir le support d'une communauté dans ma vie de prière, dans ma vie, voyez-vous, au fond, la vie consacrée, c'est un chemin pour vivre notre baptême. Puis qu'est-ce que c'est, là? Si je veux appartenir à Dieu, il faut que je vois qu'est-ce que je fais avec les dimensions les plus profondes de l'être humain. C'est le rapport à l'avoir, le rapport au pouvoir, le rapport à l'amour. Nos trois vœux, c'est ça. Alors, il me semble que je peux dire que les vœux m'ont aidé dans mon rapport à l'avoir. Plutôt que de nourrir le désir de posséder toujours davantage, le désir de partager, puis le désir de remercier pour ce qu'on a. Puis au niveau du pouvoir, me semble l'obéissance pour moi, n'importe qui me connaît pourrait vous dire que je ne pense pas que j'ai vécu comme une esclave. Mais seulement, ce qu'on apprend, c'est ne pas se servir du pouvoir qu'on a tous et toutes pour dominer, pour séduire, mais s'en servir pour travailler l'unité des gens. Puis la vie communautaire nous aide pour ça. Puis pour la question de l'amour. Vous savez que moi, avant d'entrer, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, arrangez-vous, mon Dieu, pour que le fait de faire un vœu de chasteté, ça ne me fasse pas une personne moins aimante. Bon, bien, c'est aux gens à juger qu'est-ce que ça a fait. Bien, je peux vous dire que c'était ma prière, puis j'espère que... Et il me semble que Dieu a compris.